We Do Biz.
We Do Biz. Première radio en ligne, 100% entrepreneur.
Chers amis auditeurs, bonjour. Benoît Duchâtelet pour Les Hommes Clés. Ravi de vous retrouver sur We Do Biz, la radio des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons un point particulièrement musical. Je reçois Bruno Prédebon. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Je vous reçois avec plaisir aujourd'hui pour faire un point particulier parce que vous mélangez plusieurs talents en tant que producteur, en tant qu'ancien comédien, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de projet, en tant que porteur d'une aventure qui s'appelle Les Amants d'un jour, dont vous nous parlerez à la fin, qui est votre projet clé. Bruno, si vous avez la gentillesse de présenter aux auditeurs quel a été avant tout le début de votre parcours et ce qui vous a amené à la production.
Ce qui m'a amené à la production, en fait, c'est une volonté toujours de développer des projets. J'ai commencé il y a plus de 30 ans comme artiste, en fait. Donc j'étais un jeune artiste.
Sur les planches?
Sur les planches, et j'ai commencé en tant que danseur, en fait, très très jeune.
Oui.
J'ai eu la chance de très jeune de pouvoir travailler à l'étranger. Donc d'avoir une expérience internationale assez probante au Japon notamment, donc il y a plus de 25 ans. Donc ça m'a beaucoup marqué. Je suis revenu en France par la suite, j'ai commencé petit à petit à... On était confronté quand même à des difficultés en tant qu'artiste, à trouver du travail, enfin voilà, des choses comme ça. Donc on développe, j'ai un caractère assez fort, donc j'ai développé mes projets assez rapidement. En développant ces projets, on se rend compte que certaines personnes veulent vous aider, d'autres organismes non, d'autres si. Donc je suis allé en fait vers la production tout naturellement.
D'accord, pour être autonome?
Pour être complètement autonome. Donc ça s'est fait, ça s'est pas fait en deux mois, ça s'est fait en quelques années. Et de là, le parcours s'est très bien passé. J'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes, d'avoir des très beaux projets. Et la vie a fait qu'aujourd'hui, je me retrouve devant vous avec le projet des Amants d'un jour.
Et les Amants d'un jour sont donc l'aventure 2013 qu'on reprendra dans cette émission. Mais plus spécifiquement, les moments clés, vous disiez des belles rencontres. Ça compte énormément au moment où on essaye de développer et de monter ces projets. Les rencontres sont indispensables. Il faut savoir les reconnaître, leur tendre la main, prendre les mains qu'on vous tend également. Quels sont les points forts qui vous reviennent en tête, qui vous ont marqué? Parce que je rappelle, pour ceux qui, évidemment, d'habitude, on tourne autour des métiers de l'entreprise, mais là, c'est l'aventure entrepreneuriale d'un producteur. Vous avez croisé Elie Chouraki, Robert Hossein, vous avez monté Les Dix Commandements, Notre-Dame de Paris, Bénure, d'autres spectacles dont vous nous parlerez. Quels sont, dans ces moments phares, ce qui a été pour vous essentiel?
Il y en a plusieurs. Il y a ce premier voyage, il y a plus de 25 ans au Japon, pendant lequel, moi, en tant qu'artiste, je rencontre un tout jeune assistant de producteur qui, 15 ans après, me rappelle pour me dire « Je souhaiterais faire venir un spectacle français dans mon pays car je suis devenu entre-temps producteur. »
Tout simplement.
Tout simplement. Donc, 15 ans, est-ce que tu peux me donner un coup de main là-dessus? Moi, qui, à l'époque, essayais de monter un film au cinéma, je lui dis « Tiens, pourquoi pas ?» De là est née l'aventure des 10 commandements que tout le monde connaît au Japon. C'était la première fois qu'une comédie musicale française
s'exportait.
Le Japon étant un pays qui s'adressait plutôt à des spectacles américains à l'époque.
Oui.
Donc voilà, nous sommes partis sur une aventure de 2 ans à cette époque-là avec les 10 commandements.
C'est vraiment une aventure parce que là vous avez défraîchi un terrain qui n'avait pas été pratiqué dans le monde des comédies musicales.
C'était la première fois.
Oui.
En fait, c'était la première fois. Et par la suite, eh bien, nous avons eu la chance d'aller en Corée, d'aller aux États-Unis, d'aller. Donc le spectacle s'est joué dans pas mal de pays et a ouvert la voie. Il y avait Notre-Dame à l'époque, quelques années auparavant, mais l'international et pour un spectacle français était difficile à aborder. Les comédies musicales anglo-saxonnes prenaient le pas et les talents anglais prenaient le pas sur les talents français. Alors que nous, en France, très honnêtement, dans nos métiers, je peux parler de mon secteur d'activité, en tout cas, les talents français sont vraiment reconnus.
Mais alors, comment vous expliquez cette différence entre les talents français sont reconnus et le fait que ça n'ait pas existé?
La volonté, peut-être. Peut-être qu'on manque un peu de volonté ici. On a peut-être peur. Il y a des barrières qui à l'époque n'avaient pas été franchies. que nous, avec ce spectacle, nous avions franchi avec des équipes. Ces équipes, il y a pratiquement 10 ans maintenant, sont restées sur Paris ensuite, sont revenues sur Paris et ont développé des autres projets comme Notre-Dame, comme Roméo et Juliette. Ça, c'est, voilà. Après, la porte était ouverte, si vous voulez.
Bon, l'avantage avec l'amour, Notre-Dame, les 10 commandements sont des sujets complètement internationaux et qui fonctionnent dans le temps. Mais plus concrètement, vous avez également cette aventure à Sydney.
Oui, Ben Hur.
Oui, pour Ben Hur.
En fait, c'était le spectacle que Robert Hossein avait mis en scène au Stade de France. Donc là, c'était vraiment un pari mondial. C'est-à-dire que jamais un spectacle créé dans un stade, il n'a pas eu beaucoup déjà. Oui. Donc,
rappelez-nous les superficies pour qu'on comprenne.
En fait, c'était le Stade de France, donc vous avez 90 000 places, 5 soirs à guichet complet, avec le Stade de France recouvert de terre battue, transformé en arène romaine. C'était incroyable.
Voilà, je voulais qu'on revienne là-dessus,
oui,
parce que on se rend pas compte.
Oui, tout à fait. Donc, le pari de l'avoir joué au Stade de France et que Robert Hossein avait fait à l'époque avec le directeur du Stade de France, c'était déjà énorme. Donc, quelques années après... Ayant ouvert les portes de l'étranger, ayant composé des équipes avec moi qui travaillent régulièrement à l'étranger, le Stade de France était venu me solliciter pour voir s'il était possible d'amener ce spectacle à Sydney, puisque les Australiens voulaient créer un événement au Stade Olympique.
Ça déjà, faut avoir l'information au bon moment.
Tout à fait, c'est-à-dire que le Stade Australien avait contacté le Stade de France, il s'était mis en relation et avait commencé à en parler.
Donc, en gros, pardon, pour faire le parallèle avec des porteurs de projets, que ce soit dans le monde de l'entreprise, du sport, de la musique, lorsqu'on commence à mettre ses briques quelque part et qu'on défriche le terrain, on vous regarde.
Tout à fait.
Et ces initiatives-là, si elles ne prennent pas, la mayonnaise ne monte pas là où on les crée, pour autant, il faut rester confiant parce que ça peut fonctionner ailleurs.
Tout à fait, exactement. Donc on a réfléchi à ce projet, on l'a étudié, on a mis 6 mois à l'étudier, on a trouvé les financements en Australie.
Et 6 mois pour étudier et financer le projet ?
Tout à fait, parce qu'il y avait une restructuration du spectacle à faire, puisque le stade olympique de Sydney est complètement différent, en termes d'assises et en termes même de pelouse de superficie de pelouse par rapport au Stade de France.
Oui, donc un cahier des charges à réécrire.
Il y avait un cahier des charges artistique, il y avait un cahier des charges financier, il y avait un cahier des charges surtout technique, qui était très important.
Mais ça peut sembler pas si long, justement, de réussir à faire cette révolution en si peu de temps. Parce que
On a monté le cahier des charges, on a trouvé les solutions en 6 mois, et ensuite, on a mis 1 an pour le préparer. Pour spectacles, voilà.
Pour 2 dates?
2 dates. 2 dates au Stade Olympique de Sydney. Le Stade Olympique était rempli, et c'est devenu le 2e événement après les JO à Sydney.
Oui, tout simplement.
C'était la première fois qu'en Australie, un spectacle se jouait dans un stade et non pas une compétition sportive. Donc ce pari-là était un pari fou. On l'a gagné avec des équipes françaises et des équipes australiennes, évidemment. Il y avait les 2 équipes, mais la maîtrise et la direction des opérations étaient du côté français.
Bon, donc le cocorico est tout à fait assumé
dans cette aventure. Ah, je l'assume complètement.
Donc, bravo pour cette fonction d'ambassadeur, entrepreneur et porter la musique comme ça hors des frontières avec un talent de gestion de projet, puisque c'est colossal quand même.
C'est colossal, c'est 800 personnes tous les jours en quotidien, c'est énorme.
Voilà, j'ai essayé d'imaginer ce que ça pouvait représenter en équivalence lorsqu'on a des retours d'expérience d'entreprise. Là, ce sont des moments clés. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été peut-être moins visibles, mais qui, de par des rencontres ou de par des...
Les rencontres, oui. Enfin, les rencontres, on en fait tous les jours.
Il y a celles qui comptent aussi.
Il y a celles qui comptent. Moi, j'ai c'est cette rencontre avec cet assistant de production japonais qui, à l'époque, m'a ouvert cette porte. On a relevé ce pari avec Eli Shuraki à l'époque. C'est pareil, on avait réétudié complètement parce que là, les Japonais avaient à l'époque 20 millions de dollars de budget. Mais c'était la première fois qu'un musical français, un spectacle musical français partait en Asie. Oui. Donc c'était très compliqué. Donc il a fallu bien étudier artistiquement, techniquement et financièrement la proposition japonaise, et ensuite on a mis un an et demi pour le monter, pour faire une tournée au Japon. Mais donc voilà, cet homme-là, qui a mon âge en fait, ça a été un moment clé. Et ensuite, après, la porte, une fois qu'elle est ouverte, si vous avez les compétences, vous avez les équipes, vous avez la volonté, parce qu'il faut avoir une volonté de faire quand même, oui. Parce que à chaque fois c'est un pari. Oui.
C'est un peu ce que j'appelle la méthode légionnaire, c'est-à-dire qu'il faut prouver à chaque étape, et du coup la porte continue de s'ouvrir.
On est obligé. Et puis bon, nous dans notre métier, on a un facteur qui est primordial, c'est que si le public ne vient pas, c'est un échec.
C'est très factuel.
Même si le pari technique, artistique a été réussi, si le public n'est pas au rendez-vous, ça reste un échec.
Oui, c'est vraiment le carrefour de plusieurs compétences.
Exactement.
Pour arriver au succès. On imagine très bien ce que ça peut représenter, tout en étant en face de proportions qui sont quand même colossales, on le redisait tout à l'heure. En préparant cette émission, vous me stipuliez également la particularité, et là c'est également pour la partie entrepreneuriale, je reviens dessus sur We Do Biz, sur ces questions de financement, sur ces questions de structure, de société rattachée à des fonds d'investissement, de savoir trouver les bons interlocuteurs, le bon montage. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ces détails?
Dans mon secteur d'activité, en tout cas dans l'entertainment, à Paris, c'est assez nouveau.
Là aussi, il y a une nouveauté qui fonctionne.
Tout à fait. L'entertainment est un marché qui est vraiment, les Anglo-Saxons l'ont compris depuis très longtemps, c'est un très gros marché à fort potentiel. En France, ça commence à arriver. On fait les propositions de spectacles pour, donc il y a des investisseurs qui commencent à s'intéresser très fortement à ce secteur d'activité en dehors des médias, qui sont souvent coproducteurs des projets. Là, en l'occurrence, pour les Amants d'un jour, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Ingenius, qui a été créé par une femme, ce qui est à souligner, qui s'appelle Elisa Dubois.
Oui, pardon, la chose nous retient mon attention, parce qu'on appelle ça les hommes clés, mais on voit bien que les femmes clés sont essentielles dans
exactement.
Le parcours
des projets. Exactement, en tout cas dans ce projet, elle est essentielle. Elle a créé ce fonds et a réfléchi à monter cette structure de production avec le fonds qu'elle dirigeait pour produire des comédies musicales à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire type Broadway, en live, des musiciens sur scène, mais composé d'artistes et d'équipes françaises.
Composé d'artistes et d'équipes françaises. Voilà. Et là, vous faites un point particulier donc sur le projet clé qui avait justifié que je m'adresse à vous et que on regarde de plus près ce que sont les Amants d'un jour qui vont sortir en septembre 2013. Là, c'est pleinement effectivement votre projet clé. C'est les reprises des succès d'Edith Piaf. Donc, vous nous avez expliqué l'originalité de ce fonds d'investissement qui d'habitude somme toute investi dans des projets, qu'il a décidé d'aller plus loin et de s'impliquer dans cette aventure avec vous, fort de l'histoire que vous nous avez présentée. Vous pouvez reprendre avec nous les Amants d'un jour et vous avez commencé, mais la nature profonde et puisque vous avez la volonté, mais également vous avez fait beaucoup d'innovations dans ce métier.
Tout à fait. C'en est une autre.
Voilà,
en fait.
C'est pour ça.
La volonté de Music Halls et du fond étant de produire des comédies musicales françaises originales et de partir ensuite à l'étranger et de faire le tour du monde et de jouer à Broadway ou dans le West End, comme Les Misérables à l'époque, il y a plus d'une vingtaine d'années. Les Misérables avait été créé en France, mais reprise par Cameron Mackintosh, qui l'a recréé à l'anglo-saxonne. Nous, on veut, enfin le fond, et Music Halls et moi, voulons faire le contraire, c'est-à-dire produire en France et exporter ensuite. Donc il y a un cocorico là aussi, c'est-à-dire que faire ça avec des artistes et des techniciens et des équipes dirigeantes françaises. Donc ça, c'est très important pour nous.
Alors voilà pourquoi on revenait avec un sourire amusé sur ce cocorico, parce que somme toute, on n'a pas beaucoup d'exemples à reprendre. On vient de faire là la litanie des révolutions que vous avez apportées dans ce métier, en tout cas des innovations dans les montages, dans la façon de prévoir le développement de ce projet. Vous nous disiez que des succès d'hier étaient repris, étaient réaménagés à l'américaine, entre guillemets, pour correspondre au profil de Broadway. Là, vous partez d'un projet français qui développait en France, que vous exportez après.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez revenir? On a vu l'organisation colossale que représentaient les autres projets. Là, pour les Amants d'un jour, vous avez quel rétro-planning, pour reprendre un terme français?
Le rétro-planning, en fait, on est en production, on est en pré-production depuis 4 mois. Le casting a été finalisé. L'album sort demain.
Des blogueurs efficaces et vos community managers nous ont fait comprendre qu'effectivement les places avaient déjà été vendues.
Les places sont en vente et on sera à Bobino à partir du 24 septembre 2013.
Pour combien de temps?
pour 6 mois.
6 mois.
Suivi ensuite d'une tournée française et évidemment du développement à l'étranger. Là, l'originalité de ce projet, c'est les équipes françaises sur une histoire originale, mise en musique par des chansons de Piaf qui ont complètement été réarrangées façon blues, jazzy par Jean-Claude Grenassia. L'originalité et l'ambition surtout de ce projet sur l'artistique, c'est d'avoir aussi des avant-premières en province avant d'aller jouer à Paris. C'est-à-dire qu'on va faire, on va faire l'anglo-saxonne, on va faire un système de preview, c'est-à-dire qu'on va créer le spectacle au mois de mai. Et au mois de juin, nous allons aller à Lille, à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, à Hyères, à la Grande Motte, pour pas non pas tester le show, mais pour présenter le show en avant-première au public et ensuite seulement aller à partir du 24 septembre 2013 à Paris, bon, à l'américaine.
Après tout, à l'américaine, mais l'avantage, c'est que la musique et les arts touchent tout le monde et je pense que nos régions seront ravies de pouvoir goûter aux amandes un jour avant la capitale. Donc ça, c'est au-delà de ça, c'est un très bon réflexe. Mes oreilles ont eu la chance d'entendre une partie des musiques de ce spectacle qui ont effectivement été remontées. Étant un fan de Piaf, je ne savais pas ce que j'allais ressentir, et cette modernité, cette fraîcheur est quand même très bien vue. Donc ça fait, on cumule dans les innovations, et c'est aussi cette reconnaissance-là qu'on voulait mettre en lumière aujourd'hui sur We Do Biz. Donc merci Bruno pour cette présentation. Néanmoins, dans les projets clés, vous êtes focalisé sur les amandes un jour. Est-ce que vous êtes non pas monotache, parce qu'on a bien vu que vous étiez polyvalent sur de nombreux sujets, mais qu'est-ce qui reste à faire pour que les amandes un jour avancent comme vous le souhaitez?
Il reste 1 an ou 6 mois de pré-production et 6 mois de développement derrière, mais il reste beaucoup de travail encore aujourd'hui. Mais voilà, le lancement du double album, le choix des artistes, le choix du metteur en scène qui est Jean-Louis Grindat. Voilà, on a des étapes clés régulières jusqu'au 24 septembre 2013. Il y a beaucoup de travail. Et ensuite, on aura beaucoup de travail, évidemment, sur le développement du spectacle à l'étranger. Les étrangers sont déjà évidemment intéressés par ce spectacle. Donc, on commence à développer aussi l'étranger aujourd'hui par, évidemment, de la relation simple. Et une fois que le spectacle artistiquement va être monté au mois de juin en preview, on va pouvoir inviter le monde entier à venir voir ce show.
Oui, exactement. Et vous dormirez dans une autre vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quand il y a le succès est là, il faut l'accompagner, le porter. C'est l'intérêt de pouvoir avoir touché comme ça des aventures innovantes. Et je réinsiste sur le parallèle qu'on peut faire avec le courage des entrepreneurs qui, eux aussi, se lancent, essayent, innovent, se financent eux-mêmes, vont chercher les financements ailleurs, ont beaucoup de temps en pré-production, beaucoup de temps en post-production, avoir les bonnes rencontres, trouver les bons interlocuteurs, les bons financiers. Une fois que cette alchimie fonctionne, c'est ce qui a fait également votre succès, c'est que vous avez su assembler les pièces du puzzle dans ces projets.
Il faut allier l'intelligence, les compétences, le talent, il faut y croire. À partir de là, il faut pas en démordre. Il faut aller l'objectif, en tout cas pour les amandes un jour, c'est de faire le tour du monde. Chaque élément de la société, chaque artiste, chaque pièce de notre puzzle aujourd'hui a cet objectif en tête.
Viser le tour du monde et la réussite du projet.
Du projet, exactement.
Ce qui, bon, est tout à fait rassurant. Lorsqu'on commence à goûter aux amandes un jour, on voit le potentiel qu'il y a derrière et cette touche d'éternité que nous offre Piaf par votre intermédiaire. Donc vous, la production, Bruno Prédédon, merci pour cet éclairage que vous avez fait sur ce parcours. Nous allons suivre de près l'aventure des amandes un jour. On est ravis de redécouvrir ce que peut donner, parce qu'on ne s'en rend jamais compte lorsqu'on assiste et qu'on profite d'un spectacle, ce que ça sous-entend derrière. Et là, vous êtes l'homme de la situation pour avoir assumé des projets conséquents. Merci aussi d'être l'ambassadeur de la qualité de la musique française, du coup, en France et à l'étranger. Vous étiez dans la rubrique des hommes clés avec un focus particulier sur le monde de la musique et l'histoire de l'entreprise musicale. Merci Bruno et chers amis, je vous en prie, mes chers amis auditeurs, on vous retrouve dans l'émission des hommes clés. Benoît du Châtelet, à très bientôt.